Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va bousculer les habitudes aujourd'hui. On va débuter avec une musique angoissante, angoissante, mais de circonstance, puisqu'une partie du monde célèbre Halloween aujourd'hui, la fête des morts. Alors, pourquoi pas nous ? Vous le savez, dans beaucoup de récits horrifiques, comme en football, il est souvent question d'un retour. Le retour de ceux que l'on avait enterrés peut-être un peu trop tôt. Zidane était sous pression la semaine passée. Et son Real va mieux, il vient même d'infliger une manita convaincante à Leganés en Liga. Pensons également à Jardim et à Monaco, vainqueurs face à Marseille en Coupe de la Ligue hier. En parlant de Marseille, des fantômes, ceux de la saison passée, semblent ressurgir du côté de la Canebière. Après la déroute attendue au Parc dimanche, l'OM n'a réagi que trop tard. Hier, une honte, nous dira André Villas-Boas, l'entraîneur portugais qui a peut-être conscience d'avoir mis les pieds dans une maison hantée. Allez, on va arrêter de jouer à se faire peur, on va retrouver une ambiance un peu plus légère, puisque nos consultants ne sont ni des zombies, ni des fantômes, ils sont légèrement inquiétants parfois, je vous l'accorde, mais ils sont surtout pleins de vie. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour à vous, alors là je peux vous dire, moi, je suis bien vivant. Ah oui.
Mais parfois inquiétant, reconnaissez-le.
Ça peut arriver.
Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous, et les auditeurs n'ont pas la chance d'avoir de la vidéo aujourd'hui, parce que voir Hervé Penaud, vous savez, légèrement en sueur, comme ça avec la chemise entrouverte, c'est quelque chose.
Pas pour des bonnes raisons malheureusement.
Voilà nos auditrices curieuses de suivre l'émission du jour. Bonjour.
Bonjour, plus le retour Jelita. Plus le retour du jeudi que du Jedi.
Oui,
sympa. Bien. Joli. On valide.
Moins pratique le vendredi.
Bonjour Christophe Jousset.
Bonjour Hugo.
Mais samedi quand même d'être là.
Vous savez que les calembours, les petites audaces comme ça, c'est plutôt...
Bah j'aime bien, ça témoigne de...
C'est plutôt Christophe Jousset, c'est plutôt sa spécialité.
Bah c'est bien, il a de l'esprit, c'est agréable, ça fait du bien.
Exactement. Merci à Pierre-Olivier Guérin, qui en a beaucoup d'esprit également, et qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Laurence Salerno, l'homme qui est derrière hein, tous nos effets hollywoodiens. Tout est en place, place au coup d'envoi.
Marcelo pour un centre, Benzema est seul, la remise, et le but pour le Real Madrid. Karim Benzema encore le centre. Ouh, deuxième but pour le Real. Benzema, contre-pied réussi, 4-0. Belle saison en championnat, Karim Benzema, 7e but en 9 matchs de championnat, 4-0 pour l'équipe de Zidane.
Il a envie encore de prouver plein de choses, envie de montrer que justement c'est l'un des meilleurs. Et il prend du plaisir à chaque fois qu'il est sur le terrain.
Karim Benzema centre, la tête de Luka Jovic. Le premier but enfin de Jovic avec le Real Madrid, Manita, 5-0 pour les Madrilènes.
Alors Manita face à Leganés, hein, il faut le rappeler, Leganés dernier du classement du championnat d'Espagne. Mais tout de même, le Real s'est fait plaisir et a fait plaisir à ses supporters hier à l'occasion de la 11e journée de la Liga. 5-0, 5 buteurs différents. On va d'abord parler de l'un d'entre eux, on va faire un focus sur celui qui, vous venez de l'entendre, a été complimenté par Zidane, son entraîneur, à savoir Karim Benzema. Christophe Jousset, un Benzema record.
Oui, il est devenu hier soir, Benzema, le joueur français à avoir marqué le plus grand nombre de buts dans un club étranger. Et quand on va vous donner la liste de ceux qui le dépassent, ça pose un petit peu son homme. Karim Benzema a battu le record en fait de Thierry Henry, qui avait marqué 228 buts avec Arsenal, toutes compétitions confondues. Et Benzema, lui, est maintenant seul en tête avec 229 buts. On a essayé d'aller un petit peu plus loin et on a réfléchi tous ensemble au service des sports, œuvre collective. On a retrouvé un certain David Trezeguet qui avec la Juve a marqué 171 buts. Donc il y a quand même un trou. Derrière, on a Ribéry avec le Bayern, 125 buts. Et puis Gignac aussi, ça c'est une idée brillante d'Olivier Pron, parce qu'on a failli passer à côté.
Oui, au Mexique. Ouais. Forcément, il a marqué plus de 100 buts, non ?
Ah, absolument, il est au-dessus des 100 buts. Il est à 110 buts avec les Tigres de Monterrey. Et puis, plus vieux, on a Michel Platini aussi avec la Juve, qui lui s'était arrêté à 104 buts. Allez, oui. Un petit dernier, Cantona ?
À une époque, on marquait moins quand même.
À une époque, on marquait moins, c'est vrai. Et dans l'entre-deux époques, il y a Eric Cantona avec Manchester United, 82 buts.
Merci Christophe, merci à tout le service des sports donc.
Oui, c'est une impro.
Collégial. Ils ont repassé à travers tous les matchs, bravo. Hein. Ouais. Ça fait 4 jours qu'ils y sont.
Les moyens de RFI sont impressionnants. Nous sommes partout, même à Madrid. Bonjour Pierre Chaperon.
Bonjour à tous.
Correspondant de RFI dans la capitale madrilène, Pierre Chaperon. Parlez-nous du Benzema que vous avez vu, observé, même admiré hier. Racontez-nous un petit peu son match face à Leganés, s'il vous plaît.
Admirer, ça je sais pas, mais Karim Benzema depuis surtout le départ de Cristiano Ronaldo, donc il y a 2 saisons, qui a pris en main l'attaque du Real Madrid depuis 2018, si je compte bien. C'est un des grands attaquants, et surtout l'année dernière le gros problème qu'il avait, c'est qu'il était très très mal servi. Cette année, il a quand même Eden Hazard avec lui. Il a le petit jeune Rodrigo qui l'aide quand même pas mal. Et puis, Karim Benzema, c'est celui qui explique que c'est un attaquant avec une mentalité de numéro 10, donc il participe énormément au jeu, parce que vous rappeliez cette stat comme quoi il est le meilleur buteur dans un club étranger, meilleur buteur français dans un club étranger, mais hier il a quand même délivré 2 passes décisives, et depuis le début de la saison je crois qu'il est sur 3 passes décisives, ouais. Et il a participé à 10 buts depuis le début de la saison, sur 10 buts, il a marqué 7 buts et 3 passes décisives.
Donc des statistiques impressionnantes. Je vous pose la question, Pierre, après on fera un tour de table. Il a bientôt 32 ans, Karim Benzema, a-t-il déjà été aussi fort que ces dernières semaines, selon vous ?
En fait, à Madrid, chaque semaine, j'ai l'impression qu'il est plus fort que la semaine d'avant. Il montre vraiment un bagage technique qu'on lui connaissait, qui était mis en valeur peut-être un peu moins mis en valeur à l'époque de Cristiano Ronaldo, où il était plus le passeur officiel de Cristiano Ronaldo. Là, il marque, donc peut-être qu'on s'en rend plus compte parce qu'il est au tableau des statistiques. Mais Karim Benzema, cette saison, j'ai presque préféré le Karim Benzema de la saison dernière, qui se battait vraiment, qui essayait de monter, d'aider le collectif. Cette année, il est peut-être un tout petit peu plus tueur à la rigueur, mais de toute façon, moi, j'ai toujours bien aimé Karim Benzema. C'est quand même un joueur qui est très intéressant sur un terrain et qui, dans ce collectif-là, surtout de l'époque de Cristiano Ronaldo, était essentiel pour délivrer des passes.
Nabil, a-t-il déjà été aussi fort, Karim Benzema ?
Oui, il a eu des séquences où il a été exceptionnel. Il a eu des séquences où il a fini avec 25 buts en Liga. Alors parfois, dans le football, on a la mémoire courte. Son histoire a été aussi un petit peu cannibalisée ces dernières saisons par la présence de Ronaldo. Mais il a eu l'intelligence de collaborer, d'être complémentaire. C'est sûr que c'était pas le choix numéro 1 du côté du Real, donc du coup il était un petit peu tapis dans l'ombre, mais pour les connaisseurs du football, on savait ce qu'il apportait à l'animation offensive du Real. Pour moi, Benzema, c'est tout sauf une affaire de stats, c'est lui qui en parle le mieux. Pierre a raison de rappeler que c'est un numéro 9 avec une âme de numéro, enfin avec un rôle et un fonctionnement parfois de numéro 10. C'était Ancelotti qui l'avait expliqué dans son livre. Moi, je vais aller un peu plus loin. Moi, je trouve qu'en club, c'est le plus grand joueur français de l'histoire. Il a le plus grand palmarès. Il a résisté à une concurrence incroyable. Il joue dans le plus grand club de l'histoire du football, qui est le Real. Et je terminerai là-dessus, sa carrière n'est pas terminée.
En fait, ce qui est impressionnant dans les chiffres, puisqu'on l'a dit, il a dépassé Thierry Henry. Thierry Henry, lorsqu'il réalise cette performance incroyable avec Arsenal, puisque c'est évidemment une performance exceptionnelle d'avoir atteint ce chiffre-là, 228
pour Thierry Henry.
Avec Thierry Henry. Mmh. Sauf que à Arsenal, j'ai presque envie de dire, tout le monde, durant toute la période où Henry était à Arsenal, tout le monde jouait pour lui. C'était vraiment lui l'attaquant numéro 1 absolu. Là, au final, au Real, c'est simplement, entre guillemets, depuis 2 saisons que c'est le cas pour Karim Benzema. Avant ça, il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait toute la concurrence qui a été évoquée par Nabil Djellit, on pense à Gonzalo Higuain, etc. Et au final, Benzema a tenu à résister. Alors certes, il dépasse Thierry Henry avec 2 saisons de plus, C'est vrai.
Sans tirer les pénaltys et les coups francs.
Mais tout de même, réussir une telle performance, telle longévité au Real, avec encore une fois une telle concurrence, c'est ça qui est impressionnant chez Benzema.
Alors, Karim Benzema, juste Hervé, parce qu'on l'a pas forcément dit, co-meilleur buteur à l'heure actuelle de la Liga, le championnat espagnol.
Et quatrième but, meilleur buteur de la Ligue des Champions en cours. Ouais. Ça a quand même son importance.
Pour moi, sa force a toujours été déjà de repousser la concurrence. Parce qu'il faut se souvenir des premières années où chaque fois c'était le numéro 1 quasi par défaut. Et c'est vrai qu'on parlait de la concurrence qu'il avait connue avec Higuain. À un moment, il y a plein de gens qui disaient allez, mais il faut que Benzema parte. Mais Benzema a toujours voulu rester. Il a eu des propositions pour partir et dans des grands clubs. Et son agent de l'époque, il a changé depuis, il a toujours dit non, il va rester au Real, il va s'imposer, il va être un grand joueur du Real. Ce qu'il est devenu, évidemment. Alors, simplement, c'était intéressant ce que disait Nabil, comme toujours, parce que c'est Nabil. Vous savez qui c'est, qui ne fait pas que des calembours. Il a une analyse fine du football. Et
quand si
il
dit son que obsession pour Benzema est parfois inquiétante. Hein.
Ça peut arriver.
Mais vaut mieux avoir une obsession pour lui parce qu'il a quand même sévèrement ramassé à une époque en France. Il a une image aussi qui est clivante en France.
J'aurais pas dû vous lancer.
Non, mais ça fait partie aussi de la grille d'analyse.
Parce que laissez Hervé.
C'est intéressant le débat lancé. En fait, est-il le plus grand joueur français de l'histoire évolué en club, bien sûr.
Alors, quel est votre avis?
C'est compliqué. C'est compliqué parce que on peut pas oublier Michel Platini. Michel Platini à l'époque de la Juve, c'est quelque chose de monstrueux. Et puis il faut se rendre compte ce que c'était que cette Juve-là. Alors là, on pouvait pas marquer 25 buts ou 30 buts. Lui, il finissait les meilleurs buteurs avec 17, 18, 19 buts. Quand on mettait déjà dans ce championnat-là 17 ou 20 buts, c'était exceptionnel.
Mais surtout au niveau du palmarès, c'est 4 Ligues des Champions. Ah, Benzema.
Le problème, c'est que le football a tellement évolué depuis des années. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des clubs, des superstructures, style Real, Barcelone, qui trustent tout, même des clubs anglais. Que la concurrence n'est plus la même. Alors c'est difficile, je trouve, de comparer en termes de palmarès pur.
Et après, je vous réponds à ce moment, Platini, c'est 3 ballons d'or aussi. Hein.
Et Platini était le numéro 1 de son équipe, d'une équipe de monstres, alors que Benzema a été longtemps le numéro 2, 3, voire 4 de sa propre équipe.
Allez, on laisse Karim Benzema de côté. Je vous l'avais promis en introduction de cette émission. On va parler du Real et d'une certaine résurrection. En tout cas, pour Zidane, c'était chaud il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps. Pierre Chaperon, ça va un petit peu mieux. Il y a eu la victoire en Ligue des Champions contre Galatasaray. Là, il y a cette manita contre Leganés. Le Real deuxième à un point du Barça au classement de la Liga, ça va mieux, il respire, Zizou.
Oui, il respire, mais de toute façon, il y est habitué. Hier, en conférence de presse, il nous expliquait qu'il y aura toujours cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. C'est-à-dire que dès qu'il y a un match nul ou une défaite, on le remet en question. Là, cette fois-ci, c'était après le match insipide du côté de Majorque. Il a gagné 2 matchs. Contre Galatasaray, qui était très 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 important pour la survie du Real Madrid en Ligue des Champions, et là contre Leganés, et en plus à chaque fois il a apporté la manière, c'est-à-dire que contre Galatasaray, on a vu une équipe très intelligente, très disciplinée, et là hier contre Leganés, qui est un petit, mais je vous rappelle que Leganés avait battu le Real Madrid il y a 2 saisons en Coupe du Roi un soir de janvier, et c'était l'un des pires souvenirs de Zinedine Zidane entraîneur. Là, ils ont battu donc un petit club sans encaisser de but, et ça c'est assez important au Real Madrid pour le souligner cette saison. Donc en fait, il y avait un peu tout était hier, tout allait bien en fait, tout était positif, tous les feux étaient au vert. Voilà, je vais y arriver. Donc tout allait bien, donc tout va bien pour l'instant.
Le Real va. Est-ce qu'il a trouvé un système? Est-ce qu'il a trouvé des hommes
à
et
mon
un
sens,
système?
Oui. À mon sens, oui, je pense que le milieu à trois composé du Brésilien Casemiro, de l'Uruguayen Valverde, qu'il va falloir suivre parce que c'est un très très bon joueur et il stabilise énormément le milieu de terrain, et Toni Kroos, je pense que là, ça y est, le milieu de terrain type du Real est enfin trouvé. Tant pis pour l'ancien Ballon d'Or, enfin le Ballon d'Or encore en titre, Modric. Et je pense que le petit Rodrigo, là, le Brésilien, surtout que en Espagne en ce moment, il y a une sorte de telenovela autour de Gareth Bale qui s'est absenté quelques jours. Et apparemment, il aurait fait du golf à Londres. Enfin bon, voilà.
rien d'inhabituel.
En ce moment à Londres, c'est quand même fort. Hein.
En intérieur.
Ouais, ouais, ouais.
Surtout qu'il a déjà fait son trou là-bas.
Et donc Rodrigo, le jeune Brésilien, 18 ans.
Et donc Rodrigo, le Brésilien, parce que Rodrigo, il a une intelligence qui est celle d'être un ailier offensif, mais de revenir en défense pour défendre ce que ne fait pas Bale, par exemple. Donc je pense que lui, il va s'installer assez régulièrement pour le moment au Real Madrid. Et je pense que tout ce système-là, avec les anciens aussi, et le fait qu'ils aient gagné avec la manière deux fois de suite, je pense que là, Zidane a trouvé son équipe type. Après, bien évidemment, Zidane, c'est la rotation. Donc il y aura des rotations dans la saison. Mais là, oui, il a trouvé, à mon sens, il a trouvé la bonne formule. On l'a vu hier, zéro but encaissé. Franchement, j'insiste sur ça parce que ça n'arrive pas très souvent au Real cette année.
Oui, c'est remis dans le bon sens. Salim Ben Ghali.
Nabil Djellit a utilisé ce terme de grille de lecture, comme quoi notre grille de lecture change tout d'un coup avec ces deux victoires de rang et les vrais en championnat. Mais il y a quelques jours, rappelez-vous, il y a ce fameux Real-Barça, plutôt Barça-Real, qui aurait dû jouer normalement, qui ne s'est pas joué parce qu'il y a les troubles que l'on connaît en Catalogne.
Imaginez, sa tête, ouais.
Imaginez un instant qu'il y avait eu ce match-là. Et avec un potentiel résultat et pourquoi pas une défaite, tout aurait été changé. Peut-être qu'on n'aurait pas du tout parlé de Zidane.
Donc le véritable juge de paix, le véritable maître étalon, on l'a pas eu en fait.
Non, le véritable juge de paix, mais... c'est d'enchaîner les victoires et surtout dans le contenu. Comme le dit à juste titre Pierre, déjà donné l'impression d'être moins fébrile, moins prendre de buts, moins parler de Courtois éventuellement ou de certaines lacunes défensives. Ensuite, si vous enchaînez 5 victoires et vous êtes battu par le Barça 1-0, est-ce que ça va remettre en cause toute la séquence?
Tout à fait.
Non. C'est le contenu qui est important. Est-ce que c'est un effectif qui est à bout de souffle, en fin de cycle? Est-ce qu'on est dans une séquence où on est en trompe-l'œil ou pas? On va le savoir dans les prochains matchs.
Le seul problème de ce club-là, c'est quand vous savez que votre président, il était prêt à faire revenir Mourinho. C'est pareil, absolument incroyable, mais c'est pourtant la réalité des choses. C'est qu'au bout d'un moment, il s'est dit, ah, finalement, je ne sais pas si Zidane trouve les clés. Alors, savoir qu'un type qui a autant de pouvoir et de puissance dans le club est capable d'un jour à l'autre à vous virer. Alors, il peut toujours se raccrocher à une petite chose, Zidane, qui est assez drôle, finalement, quand on pense à son palmarès. C'est, rappelez-vous, c'est la Ligue des Champions qui l'a sauvé aussi. Parce qu'il avait vu ce fameux match comme Galatasaray qui était contre Wolfsburg. Match retour de quart de finale de Ligue des Champions.
2-0 défaite à l'aller, 2-0
victoire à l'époque où l'aller. Draxler jouait à Wolfsburg.
C'est son début de carrière sur le banc du Real.
Début 2016.
Et ce jour-là, s'il est éliminé, il saute à la fin de saison. Alors, il n'aurait pas sauté tout de suite après le match, mais il était décidé que de toute façon, il ne resterait pas. Et il a réussi à retrouver les clés un petit peu. Enfin, les clés, ses joueurs ont réussi à retrouver les clés. Parce que
Cristiano Ronaldo, ce jour-là, avait été
ça mérite toujours quand on lit les résultats, qu'en fonction des entraîneurs, ça reste quand même des joueurs qui sont sur le terrain. Et ce jour-là, il se sauve. Et je crois que le match contre Galatasaray a été quand même énorme, parce que là, il savait qu'il était au pied du mur. Il avait répondu à des questions en conférence de presse, on le sentait quand même légèrement irrité. Les joueurs avaient fait front. Ramos avait parlé, on ira à la vie à la mort derrière lui, etc. Et il y a eu comme une petite début de bonne séquence, de séquence positive. Et puis, si ça marche bien comme contre Wolfsburg, ils avaient été quand même champions d'Europe à la fin de l'année.
Pierre Chaperon nous parlait de Rodrigo, le jeune Brésilien. Deuxième titularisation de match hier, premier buteur de son équipe. Hier, c'était sa première titularisation en Liga et son deuxième but cette saison. Voilà, j'espère que je n'ai dit aucune bêtise. Je parlais sous votre contrôle, Pierre Chaperon. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous.
Bonne soirée à tous.
Oui, Hervé.
Juste pas trop lui mettre de pression sur les épaules. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a fait un bon match contre Leganés que d'un seul
Rodrigo,
coup, Rodrigo, oui.
Vous pensez sérieusement qu'il écoute Radio Foot là?
Ah, attention.
Et que je suis en train de mettre la pression.
Il est en train de se faire traduire Radio Foot parce que malheureusement il parle pas français. Il apprend en ce moment et je peux vous dire qu'il a la pression.
Mais encore une fois, Nabil l'a dit, le mot enchaînement, que ce soit pour Rodrigo de manière personnelle et tout simplement pour le Real. Enchaîner ses résultats face au Betis ce week-end, face à Galatasaray en Ligue des Champions la semaine prochaine.
Voilà.
Peut-être qu'on commencera à évoquer une équipe du Real qui va de mieux en mieux.
On suivra ça. On vient de parler de Zidane. Zidane né à Marseille. Marseille, la Côte d'Azur. Voilà, la pire transition de l'histoire de Radio France.
Le centre maintenant, Augustin en force, qui marque et voilà Monaco qui mène 1-0. Pour l'instant, c'est Monaco qui se refait bien, qui continue sa série. Et voilà encore un tir, le réflexe, et 2-0. La sanction, elle est là. Ça fait 2-0 pour l'AS Monaco.
On est très déçus, on est ici pour se qualifier. Maintenant, on prend des buts qui sont évitables, un peu dans la lignée du dernier match. Aujourd'hui, on n'a pas été capable de se qualifier.
Deux buts pour Monaco grâce à Augustin et Aguilar, pas de Slimani cette fois. Un seul pour Marseille, le compte contre son camp à environ un quart d'heure de la fin. Un seul but et des regrets pour le milieu de terrain. Morgan Sanson frustré d'être sorti de la dernière Coupe de la Ligue de l'histoire suite à la défaite de l'OM sur le Rocher en 16e de finale. hier. Le score donc 2-1 pour Monaco. C'est la deuxième défaite de la semaine pour Marseille. On s'en souvient, balayé en à peine une mi-temps à l'occasion du classique. C'était dimanche, incapable de réagir hier, incapable de réagir en première mi-temps. En tout cas, ça n'a pas plu du tout à son entraîneur André Villas-Boas.
C'est vrai qu'en première mi-temps, honte, on n'a eu rien sur l'aspect, pas seulement du jeu, mais sur l'aspect de l'intensité et de l'agressivité. C'est incroyable de faire une comparaison avec première mi-temps et deuxième mi-temps. Alors, si on a la capacité physique, l'intensité, la capacité émotionnelle pour jouer en deuxième mi-temps comme ça, c'est impossible qu'on joue en première mi-temps comme on a joué.
Lui aussi nous inquiète, Villas-Boas. Une victoire sur les 7 derniers matchs, une victoire et 3 défaites sur les 4 derniers matchs. 7e place en Ligue 1, le Portugais était résigné avant le Paris Saint-Germain et désormais il nous apparaît un peu accablé, voire désespéré. Rappelle le contexte, exercice catastrophique pour l'OM, était difficile. Première partie de saison qui, pour l'instant, n'est pas convaincante. Avez-vous peur que Villas-Boas soit sans solution, Hervé Penaud?
Sans solution pour l'instant, en tout cas, il ne les trouve pas. Ça, c'est une certitude. Moi, j'ai quand même confiance en lui, parce que je pense que c'est un très bon entraîneur. C'est quelqu'un de très intelligent. On le voit même à la manière de s'exprimer. Jusqu'à présent, il n'avait pas trop pointé les joueurs. Là, il a commencé un peu à resserrer les vis et il a raison, parce qu'à un moment, il faut aussi mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Je le disais précédemment, je trouve, j'en ai un peu marre, moi, qu'on voit toujours un résultat en fonction de l'entraîneur. Il ne faut jamais oublier que d'abord, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Déresponsabiliser les joueurs à ce point-là, c'est totalement fou. Et les joueurs en profitent bien, puisqu'après, ils se cachent toujours derrière leur entraîneur, sauf quand il y a des bons résultats, où ils pensent que tout ça vient d'eux. Donc aujourd'hui, il a Benedetto qui va revenir quand même, parce que là, il va avoir deux matchs pour le coup qui sont capitaux pour lui, Lille et Lyon. C'est-à-dire que c'est son championnat. Monaco, vous pouvez être battu à Monaco en Coupe de la Ligue, ça peut arriver, c'est un match de coupe, c'est vrai que c'est le contenu qui est un peu effrayant. C'est, maintenant, il a 4 jours pour essayer de remonter et remobiliser ses hommes, qui seront un peu plus fatigués, mais enfin bon, ça va, ils ne jouent pas la Coupe d'Europe, c'est pas non plus la mort. Lille, eux, a l'habitude de jouer la Ligue des Champions là. Donc ça se décidera sur ces deux matchs contre Lille et Lyon, parce que si vraiment il n'arrivait pas à relancer sur ces deux matchs, moi je le crois capable de le faire. Franchement, j'ai une assez grande confiance en lui.
Alors quels seraient ses leviers pour qu'il puisse relancer l'OM?
Bah, ses leviers, il va pas modifier radicalement les choses. De toute façon, il a pas le choix. C'est ce qu'il faut espérer, c'est qu'Alvaro rentre. Alvaro González, qui a été vraiment une très bonne recrue défensive. Il a besoin de trouver quelqu'un qui a du poids défensif. Il faut que Benedetto rentre. Il était pas là hier. Parce que, en fait, ça va tenir beaucoup sur ces deux hommes-là. Vous avez le gardien qui est bon. Mandanda fait un bon début de saison dans l'ensemble. Vous avez un bon défenseur central, un bon attaquant. En championnat de France, ça peut suffire. D'autant plus que je trouve Payet plutôt en jambes pour son retour. Sur deux matchs, il a pas été inintéressant, aussi bien au Parc qu'hier soir. Et puis maintenant, il va falloir un peu que la mécanique reprenne. À ma vie, il était plutôt intéressant, alors qu'il est quand même catastrophique depuis le début de saison. Donc, pourquoi pas? Moi, je pense qu'il... Vous savez, il y a des joueurs, il suffit de peu, parfois, une victoire. Il avait connu la même chose, Villas-Boas. Il a eu un moment, une période où ça marchait pas. Il a pu relancer la mécanique. On a vu à la même chose avec Julien Stéphan à Rennes, à un moment, des fois, il suffit de très peu. Il y a un but, une occasion qui est marquée. Puis ça,
oui, il parvient à gagner contre Strasbourg récemment, mais derrière, ça replonge tout de suite. Au Paris, c'était un peu spécial, mais hier...
Moi, je suis d'accord sur une partie de l'analyse de l'ami Hervé, mais le reste...
Non, c'est qu'une partie, tu n'es plus ami.
C'est inconditionnel, l'amitié avec Hervé.
Je pense que la meilleure recrue de l'Olympique de Marseille, c'est Villas-Boas. Je pense que c'est vraiment un très bon coach. En revanche, tu peux mettre Guardiola, tu peux mettre qui tu veux. Il y a un moment, tu as des limites d'effectifs et tu as des limites de joueurs, tu as des limites de performance individuelle. Le seul levier qui lui reste, à mon sens, parce que jusqu'à présent, ça tenait sur Benedetto, Mandanda et l'état d'esprit, le seul levier qui lui reste, c'est de leur dire de mettre un peu plus d'abnégation, de détermination et d'intensité. Parce que pour le reste, très sincèrement, vous pensez que cette équipe de l'Olympique de Marseille, qui s'est, à mon sens, encore affaibli cette saison parce que des joueurs importants sont partis, qu'on le veuille ou non.
Qui?
Bah, Luis Gustavo, ça comptait quand même
qui
au milieu.
Il sortait pas d'une grosse saison.
Oui, parce que
Rudy Garcia. Ans, oui.
Et le manque de Thauvin, ça compte, le fait qu'il soit blessé.
Ah oui, mais Thauvin, il est blessé.
Voilà. Donc, il y a un moment, il faut pas espérer de miracle de la part du technicien portugais qui, à mon sens, commence à ouvrir le parapluie. Un, il commence à pointer les joueurs. Deux, la petite musique. Ah, bah, au PSG, ils ont des milliards. Thomas Tuchel et tout ça, ils ont des milliards. Et Monaco, ils ont de l'argent également pour recruter des joueurs. Je pense que ce qu'on lui a vendu et ce qu'il a pu réaliser lors des mercato ne correspond certainement pas à ce qu'on a dû lui dire. Ouais. Et qu'à un moment, quand ça va pas aller et quand ça va mal terminer, parce que moi, j'y crois pas du tout à cette équipe d'Olympique de Marseille, eh ben, lui, il va expliquer par A plus B que dans les caisses, il y avait zéro et qu'à un moment, bah, c'est pas un magicien.
Bon, il avait déjà expliqué que dans les caisses, il y avait zéro.
Mais pour lui, en fait, le pare-feu, il est parfait.
Parce que Hervé a dit à juste titre effectivement qu'il y a des leaders quand même, Mandanda, Benedetto quand il va revenir, effectivement ça reste des satisfactions. Forcément Alvaro, on le reverra en défense. Après il y a quand même un secteur de jeu, pardon, mais au milieu de terrain, je pointe ça parce que au milieu de terrain il y avait des attentes. Rongier, bon, il joue de temps en temps, mais c'est pas encore quelqu'un qui est
Sanson,
encore qui est totalement au point. Sanson, Lopez, bah, depuis le début de saison, sont quand même plutôt des déceptions. Strootman, bon, c'est le fantôme de celui qui était à la Roma avant sa blessure au genou. Dans ce secteur-là, on est au niveau cata quand même. Et c'est un secteur clé, forcément, pour tenir une équipe. Et aujourd'hui, défensivement parlant, vous n'avez personne pour protéger une équipe.
Je serais moins dur quand même avec l'équipe de Marseille. Moi, je ne pense pas que ce soit un mauvais effectif. Il est encore une fois, comme d'autres équipes en France, à l'image de Lyon, il est mal fagoté. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher absolument Rongier, j'ai absolument pas compris, il fallait rechercher un vrai, un pur numéro milieu défensif. C'est une équipe qui n'a pas de Coupe d'Europe. Mais tant qu'il est délesté de la Coupe de la Ligue, donc il reste en gros Coupe de France, championnat, c'est rien dans une saison, mais ça va être relativement tranquille. Et ben, s'il n'y a pas de blessure, bien sûr, ça on ne peut pas savoir, on ne peut pas prévoir à l'avance, c'est une équipe qui a quand même du potentiel par rapport au championnat de France.
Ouais, mais
quand vous avez Payet, quand vous avez Thauvin qui va revenir, Benedetto, ça vous fait une attaque.
Ouais, mais il faudrait qu'ils reviennent, il faudrait qu'ils soient tous performants en même temps, etc. Ça fait beaucoup de paramètres.
La question, c'est aussi le mental, parce que quand on voit le manque d'agressivité qu'on avait déjà constaté sur la première mi-temps face au PSG, c'était criant et bis repetita hier.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qui les empêche d'aller au moins dans un engagement
Ils pourraient être un peu plus agressifs, un peu plus déterminés. Moi, à mon sens, tactique, c'est pas une question de système de jeu, c'est déjà d'y aller, de mouiller le maillot
C'est pas si simple, moi, ces derniers temps, on n'a pas forcément envie, pardonnez-moi l'expression, d'aller au feu, d'aller à la guerre pour lui.
Après, en interne, il a un discours, il est plutôt apprécié par les joueurs. Mais moi, je pense que c'est aussi une question de profil de joueurs. Des joueurs comme Zambo Anguissa, par exemple, qui est parti il y a deux saisons.
Millions. J'insiste sur ça, Nabil, parce que vous allez sans doute le dire, Marseille aurait dû faire en sorte de le garder ou en tout cas de recruter ce genre de profil. Sauf que quand vous avez un club qui vous propose 30 millions.
Surtout quand vous avez besoin d'argent.
Mais quand tu vas les récupérer,
ils avaient été réinvestis quasiment ces 30 millions dans Strootman.
Comment tu vas les
récupérer
des ballons avec Rongier, Maxime Lopez?
Mais il ne faut pas faire passer Zambo Anguissa quand même pour un joueur hors norme. Parce qu'on connaît quand même relativement bien.
C'est vrai qu'à Marseille, il avait fait une bonne saison.
Mais vous pouvez facilement trouver.
Oui, mais il leur manque des joueurs comme ça.
Bien sûr, il manque des récupérateurs de balles, mais on peut en trouver sans avoir à dépenser 30 millions d'euros. J'espère. Ou alors là, c'est quand même un problème de cellule de recrutement.
Donc c'est pas Rongier qu'il fallait recruter.
C'était là, voilà.
C'était plutôt un garçon comme Tamézé, par exemple, du côté de Nice.
Mais ça, tu me prêches un convaincu.
Marseille-Lille à suivre en championnat ce week-end. Ce sera clairement l'affiche de la deuxième journée de Ligue 1 avec Saint-Etienne-Monaco. Et justement, parlons de Monaco, le vainqueur.
Quelle belle transition.
C'est incroyable, c'est magnifique.
Elle vient d'être improvisée. C'est ça vraiment le talent. Christophe Jousset, parlons de Monaco. Si ça va pas très bien à Marseille, ça va plutôt bien et de mieux en mieux du côté du Rocher.
Oui, il faut dire que ça avait quand même très mal commencé cette saison pour Monaco. Une bonne petite claque pour commencer à Louis II contre Lyon, défaite 3-0. Et une claque sur l'autre joue pour la deuxième journée. Tout de suite après, défaite 3-0 encore à l'extérieur à Metz. Et puis ensuite, il y a eu quelques matchs nuls. Un nouveau revers à domicile le 15 septembre, c'était Monaco battu par l'OM, justement. Et oui, c'est possible. Battu par l'OM.
Donc 4-3
à Louis II. Et Monaco qui a longtemps campé en bas du classement cette saison. Il a fallu attendre la 7e journée du championnat de Ligue 1 pour voir la SM gagner. C'était contre Nice, 3-1. Et après la victoire d'hier, eh bien, le bien mieux se confirme, puisque Monaco en est à 5 victoires en 6 matchs, toutes compétitions confondues.
La SM, 11e de Ligue 1 après 11 journées, avec le meilleur buteur du championnat dans ses rangs, Wissam Ben Yedder.
Le meilleur passeur, Islam Slimani.
Super Slim.
Alias le Zlatan du Rocher, c'est ainsi que je l'ai renommé, l'international algérien champion d'Afrique. Mais c'est vrai que
on voit tout de suite l'analogie paraît
rapide. Je veux dire, c'est une attraction avant qui est quand même spectaculaire, qui fait du bien à cette Ligue 1. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un duo aussi complémentaire.
Ça, c'est vrai.
Peut-être que Delors et Laborde aussi, c'était intéressant et c'est toujours intéressant du côté de Montpellier.
C'est l'attraction du pauvre quand même.
Ouais, mais c'est quand même. Enfin, je veux dire, on les a vus faire des belles choses.
Delors
et Laborde, mais c'est sûr que Slimani et l'ami Ben Yedder, c'est quand même d'un autre niveau. Mais après, c'était l'assise défensive qui posait question, puisque eux faisaient en règle générale le job. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont en train de trouver un équilibre autour de ce 3-5-2 qui a été voulu par les joueurs. On parlait aussi de l'intelligence des coachs. Jardim, à un moment, il y a une réunion, les joueurs lui ont dit « on préfère jouer en 3-5-2 ». Eh ben, il s'est pas entêté, il a dit « ok, allez-y les gars », il les a responsabilisés. Et c'est en train de, en partie, porter ses fruits. Donc cette équipe monégasque, même potentiellement sur le papier, même si le football c'est pas le papier. Demain, hier, quand tu vois leurs remplaçants, bah leurs remplaçants ils sont titulaires en fait, à l'OM.
C'est ça.
Il a des joueurs.
C'est ça la chose intéressante, c'est que même offensivement, pardon, mais quand on a évoqué Ben Yedder, Slimani, mais quand vous avez encore hier Baldé, Augustin, Fabregas qui certes s'est blessé, vous avez Golovin qui est encore sur le banc.
Onyereku également.
À part peut-être le PSG, vous avez offensivement la meilleure équipe de France à part le PSG. Offensivement parlant. Je parle en potentiel. Après, évidemment, ce n'est pas qu'une addition de noms. Mais c'est là l'importance aussi, quand même, à Monaco, c'est que vous avez un banc qui peut pallier à toute blessure, et c'est ça qui est important.
Parce que Villas-Boas, il n'a pas les joueurs.
Oui, mais. On découvre que l'eau mouille, effectivement. Mais Monaco, ils ont dépensé tellement d'argent. Des bons joueurs. Évidemment, ils ont des bons joueurs. Ce qui était incroyable, c'est
qu'ils ont fait des bons
paris.
Non, mais Hervé, ils ont dépensé de l'argent. Mais Slimani, c'est pas 40 millions. Slimani, c'est un prêt avec option d'achat.
Non, mais Slimani, après, le mercato qui a été Monaco. Mais Marseille, ils pouvaient pas faire. Marseille, ils avaient pas d'argent. Donc, on leur dit, Villas-Boas, c'est le. Je finis juste là-dessus. Villas-Boas, si ça soit sur un banc, on lui dit, bon, en gros, tu as rien. Et je peux acheter, est-ce que je pourrais même prendre un prêt? Rien. Mais on va te faire rougir. Et encore, ils le font à la fin de c'est fin, ça, en passant le lendemain de la
pourquoi.
Dernière date du mercato.
On en a discuté.
Voilà. C'est absolument stupide. Enfin, stupide, c'est-à-dire que c'est pas un mauvais joueur en soi.
La réflexion
enfin, c'est pas celui qui fait monter un palier au club. Mais donc, ils pouvaient pas. Alors qu'à Monaco, mais là, on est en train de nous dire qu'à Monaco, il y a un effectif. Mais c'est un effectif où on ne dit pas équilibré. Mais enfin, quand vous aviez des problèmes milieu défensif, tu vois, je vais prendre Bakayoko. Allez, je prends Bakayoko. Ah bah tiens, je vais reprendre, par exemple, défenseur central.
Adrien Silva.
On verra pour Maripane ce que ça donnera. Ouais. Vous étiez, on va prendre Maripane. Dans les buts, ah bah le Comte qui sortait d'une bonne saison avec Montpellier, bah tiens, on prend le Comte parce qu'on n'est pas sûr de Subasic. Ah bah Aguilar, il a fait une super saison à droite. Ah bah tiens, on prend Aguilar. Henrich, oh bah pourquoi pas Henrich qui est quand même international aussi. Donc à un moment, quand vous avez les moyens, vous avez les joueurs aussi.
Là, mais après, c'est défensivement. Là où encore une fois, on pose des questions. On parlait de régularité tout à l'heure avec le Real, il faut enchaîner. Mais c'est là aussi où il faut enchaîner à Monaco, notamment avec des clean sheets parce que c'est ça qui inquiète encore.
Néanmoins, le motif d'espoir sur ce point-là, c'est que Jardim, il nous refait un peu le coup hein, qu'il nous avait fait souvent. Lors de son premier passage, prendre le temps de régénérer l'effectif, enfin, mais profiter d'un mercato qui a régénéré l'effectif, et puis il finit par installer une équipe qui fonctionne.
Puis il a des idées, puis il fait émerger des joueurs. Mais il faut rappeler que ces joueurs sont arrivés au fur et à mesure et sur la fin du mercato. Donc le temps que ça prenne, ça rentre aussi en ligne de compte. Et après, il y a quelques joueurs qui commencent un petit peu, parce qu'on parle de Slimani, mais il y a un joueur là qui, à mon avis, va être de plus en plus intéressant dans l'effectif de Monaco. Je pense que Fabregas va disparaître. Non, c'est Gilles Dias, qui l'utilise en piston gauche et qui peut faire aussi rentrer en milieu offensif. Alors, je sais qu'il en pense le plus grand bien. Donc, cette équipe de Monaco, alors il faudra voir, mais si elle règle ses problèmes de défense, je dis bien si elle règle ses problèmes de défense, elle sera sur le podium de Ligue 1.
Oui, non, mais Silva, mais vous vous rendez compte, les joueurs qu'ils ont, c'est stupéfiant. C'est-à-dire que vous avez Paris Saint-Germain et derrière, vous avez Monaco.
C'est ça. On verra. En attendant, il y a des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue à disputer pour les Monégasques. Ce sera à suivre en décembre. La Coupe de la Ligue, qui, on le rappelle, est en plein crépuscule en France, en Angleterre. Zut, c'est une autre histoire. We've seen some extraordinary goals in this game. Quel match, quelle soirée, Anfield. Milner, tranquille. Liverpool revient à 3-2. Oh, it's in from Origi, it's absolutely brilliant. Le centre du jeune Gallois, la reprise d'Origi. Le temps additionnel. Et ça fait 5 partout. Vous ne rêvez pas. Can you believe it? Oui, on a du mal à y croire.
En effet,
en musique, comme en ce qui concerne le football de club, le contraste entre l'Angleterre et la France est parfois douloureux à établir en tout cas.
Pour les Anglais,
de ce côté-ci de la Manche. Quel spectacle, mon cher Saïd Bengali, hier à Anfield. Quatrième tour de la League Cup, donc la Coupe de la Ligue, Liverpool-Arsenal, 5 partout, score final, puis 5 tirs au but à 4 en faveur des Reds. Liverpool qui a inscrit le premier but, puis qui ensuite a toujours couru après le score. Ça, c'est quand même assez incroyable. Alors, ça nous amène justement à nous poser une question. On va préciser que c'était plutôt les équipes B hein, qui étaient alignées hier. Pas de Salah, pas de Mané, pas d'Aubameyang, pas de Lacazette. Mais
en
cherchez pas,
moyenne,
il n'était pas là.
Il y avait 5 joueurs non titulaires qui évoluaient hier dans chaque équipe.
ce n'est que la Coupe de la Ligue, pas l'objectif prioritaire de Liverpool. Liverpool qui possède 6 points d'avance sur Manchester City pour l'instant en Première Ligue. La Première Ligue, l'objectif prioritaire du club, l'objectif c'est surtout de ne pas s'écrouler une nouvelle fois dans ce championnat. Est-ce qu'un match comme celui d'hier, même avec l'équipe B, même si ce n'est que la Coupe de la Ligue, même si ça peut paraître anecdotique, est-ce qu'il ne peut pas justement, sur le plan symbolique, donner des idées aux Reds pour ne pas pour le tenir?
En tout cas, booster effectivement cette équipe, surtout... Il y a des joueurs qui, encore une fois, symboliquement, ont montré qu'ils étaient là. On nomme numéro 12, numéro 13. L'un des symboles, c'est quand même Divock Origi. Origi, qui, en plus, ces dernières années, a marqué des buts importants dans des moments clés. L'année dernière, évidemment, on se souvient du doublé face à Barcelone. Lors d'un derby, la saison dernière, 96e minute, 0-0 face à Everton. Il marque ce but. On ne sait pas d'où il vient et il réussit à marquer. Bref, certains joueurs qui, dans cette partie, se sont montrés et ont fait comprendre à Jürgen Klopp: je peux être une solution numéro 12, numéro 13. Oxlade-Chamberlain également, lui qui est revenu de blessure il y a quelques semaines, et pareil, qui a montré son importance aussi. Donc c'est ça, j'ai envie de dire, le genre d'idée. Certains joueurs qui se dégagent aussi, pouvant être, pourquoi pas, sur le banc, des jeunes joueurs aussi, pour vraiment être dans la rotation potentielle. Donc c'est ça, au final, que j'ai plus envie de sortir. Pas forcément le fait de réussir à battre Arsenal, non, c'est pas un exploit en soi. Vous venez d'encaisser 5 buts quand même face à ces gueuleurs-là, mais quand même des joueurs qui ont montré qu'on peut être là pour être 12, 13, 14, 15e homme. Et ça, c'est aussi important.
Alors justement, Oxlade-Chamberlain, on a voulu... vous avez dévoilé un petit peu ce qu'on peut dire sur lui, sur son retour. Christophe Jousset, vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur...
C'est le spécialiste
revenant,
en France.
Le revenant de ce début de saison.
Oui, tout à fait. Alors, lui, Oxlade-Chamberlain, il est spécialiste de blessures. Hein, et la plus grave, c'était en avril 2018, rupture des ligaments croisés, à un moment où il était bien, il était titulaire indiscutable à Liverpool. Et cette blessure lui a coûté notamment la Coupe du Monde, mais pas seulement, parce qu'il a mis à peu près un an à revenir dans le groupe des Reds. Blessure survenue, on le rappelle, en demi-finale de la Ligue des Champions contre la Roma. Et puis l'année dernière, donc il revient, il joue très peu, 19 minutes de jeu en tout pour la saison dernière. Cette saison, on le voit revenir petit à petit. Alors il a participé, il a joué titulaire ou remplaçant à 6 des 10 premiers matchs de la Première Ligue. L'économise, on le ménage. Il ne jouait pas, par exemple, dimanche dernier contre Tottenham. Il a passé tout le match sur le banc. Et puis, hier, le but fantastique qu'il a marqué en passant devant son adversaire, en prenant le ballon et en décochant une frappe extérieure sous la transversale pour le retour de Liverpool à 4-3, montre que physiquement, ça va un petit peu mieux quand même.
En fait, dans cette partie, vous avez deux informations importantes. Vous avez donc l'apparition claire, nette et précise d'un 12, 13, 14, 15e homme, j'ai envie de dire, dans cette équipe de Liverpool. Donc les Origi, Oxlade, évidemment, qui étaient déjà des 12e hommes et qui le sont encore plus. En revanche, et à Liverpool, c'est presque ça qui est inquiétant malgré tout, c'est que au-delà du 15, ça devient tout d'un coup beaucoup plus délicat. Parce que il y a, par exemple, les joueurs qui ont remplacé défensivement. Je pense aux jeunes Williams, aux jeunes Vandenberg, qui sont des tout jeunes. Évidemment qu'ils sont très jeunes. Trent Alexander-Arnold est très jeune aussi et performe déjà. Mais malgré tout, ils sont très jeunes. Et j'ai envie de dire, il faut espérer qu'un Van Dijk, qu'un Matip, qu'un Alexander-Arnold, que ce genre de joueurs ne se blessent pas. Parce que quand ils sont remplacés tout d'un coup par ces jeunes-là, ben, forcément, ils sont très jeunes et tout d'un coup, ça devient beaucoup plus délicat. Donc c'est...
Mais même devant.
C'est intéressant de voir un 15, 16 joueurs, mais pas beaucoup plus.
Hervé Penon.
Même devant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus un banc exceptionnel, je trouve. Hein. Parce qu'Origi, c'est vrai qu'il fait des belles entrées, mais il a quand même un plafond de verre. Alors, il a mis 2 buts, comme on rappelait, contre Barcelone, donc ça prouve que c'est suffisant.
Et hier, il met 2 jolis buts aussi.
Oui, 2 jolis buts. Alors, hier, le problème, c'est que ce type de match à 5-5, si c'est en France, tout le monde se moque. On dit, mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment le football français, des erreurs défensives monstrueuses, qu'est-ce que c'est que ce niveau-là?
Vous êtes sûr de ce que vous dites?
Certains. Et qui a parlé du match entre Amiens et Nice, à part pour moquer la performance de Nice? Pas Amiens, excusez-moi,
Le Mans
et Nice.
Hier,
juste pour moquer la performance de Nice. Les 20 premières minutes, c'est stupéfiant. Alors, erreur sur erreur, entre le gardien, pas comme hier, parce que hier, il y a quand même des erreurs monstrueuses.
Bien sûr.
Donc, et personne va dire, quel match au Mans? Le Mans-Nice, c'était un match exceptionnel. Non, on va dire quoi? On va dire, cette équipe de Nice n'avance pas. Et là, le problème, je trouve, de cette équipe de Liverpool, c'est que les deuxièmes couteaux, ils devraient quand même être un peu plus sur deux. Alors je suis un peu déçu aussi pour la sortie de Naby Keïta sur visiblement encore une blessure. Lui, pour l'instant, il a vraiment pas de chance parce qu'on a l'impression qu'il va jamais pouvoir aller au bout de son potentiel. Il est incapable d'aligner quelques matchs de suite. Alors que lui, pour le coup, était une option intéressante au milieu de terrain pour cette équipe. Mais moi, la peur que j'ai pour Liverpool, c'est sur la longueur. L'année dernière, ils ont été plutôt épargnés quand même par les blessures. Alors on parlait d'Oxlade-Chamberlain, oui, mais tous les gars de devant devant surtout, hein, les stars de devant ont été
qui sortent d'une
plutôt tranquilles, qui sortent d'une canne. On verra si d'ici la fin de saison, ils seront toujours au top comme ça et sans blessure.
Sauf le pauvre Naby Keita qui s'était blessé face au Barça en demi de la Ligue des Champions. Nabil, Manchester City sera en Anfield dans 10 jours, ce sera
de fait, le 10 novembre. Ouais,
j'allais dire le premier gros test, et c'est même plus qu'un test. Ce genre de match qui vont décider. De l'issue de la première ligue, même si on est qu'en novembre.
En confrontation directe, la saison dernière, c'était 4 points sur 6 pour Manchester City. Et encore, ils auraient pu faire 6 sur 6.
Si Mahrez avait,
mis son penalty à la fin, qu'il avait catapulté, je crois, au-dessus de.
Tout à fait.
De la barre. Donc,
c'est là-dessus qu'il gagne le titre.
Hein. Ouais, voilà. Donc, et aujourd'hui, l'écart il est de 6 points. Je crois que Liverpool croise Arsenal d'ici là, si je dis pas de bêtises.
Non.
Si je dis une bêtise.
Oui.
Ah ouais, je pensais qu'ils enchaînaient. Ils faisaient Tottenham, Arsenal.
C'est rare.
Première ligue. Non, mais je pensais qu'ils jouaient Arsenal. Non, ça va être intéressant ce match. Mais je crois qu'il y a Arsenal qui arrive après dans la séquence pour Liverpool à un moment ou un autre.
Ouais, Arsenal,
ils ont déjà battu
3-1.
Ouais, je dis n'importe
quoi. Il y aura un match retour.
Bon, bref, en tout cas, c'est intéressant pour Liverpool d'avoir réalisé le match.
Si vous les battez, si Liverpool bat en confrontation directe Manchester City en ayant déjà un avantage.
Ah, bah, s'ils arrivent à 9 points d'avance, là.
C'est quand même sérieux. Mais en revanche, s'ils perdent des points, ça sera plus compliqué.
Allez, on parlait de la gestion de l'effectif du côté des Reds. Pas simple, notamment quand le calendrier est surchargé. Les quarts de finale de la League Cup, la Coupe de la Ligue, ils doivent se disputer les 17 et 18 novembre. Liverpool doit affronter Aston Villa à Birmingham. Le problème, c'est que Jürgen Klopp, il a tout simplement agité la menace d'un forfait si une autre date convenable dans un calendrier déjà surchargé n'était pas proposée. En effet, les Reds doivent déjà disputer 7 matchs en décembre, plus le quart de finale de Coupe de la Ligue, et soit la finale pour la troisième place, soit la grande finale de la Coupe du Monde des clubs. On l'écoute, Jürgen Klopp.
Je ne suis pas inquiet, mais quelqu'un d'autre doit l'être. Nous n'avons pas établi le calendrier, je l'avais déjà fait observer lors d'autres interviews. La FIFA nous a dit que la Coupe du Monde des clubs se déroulerait au Qatar, et nous devons nous y rendre. Donc, nous le ferons. La Première Ligue nous dit de jouer le championnat, nous le faisons, bien évidemment. Pour ce qui est de la Coupe de la Ligue, s'ils ne trouvent pas une date, c'est-à-dire une date acceptable, pas à 3h du matin le jour de Noël, sinon nous ne jouerons pas. Ils doivent prendre cette décision, il faut réfléchir à tout cela. Vous avez le calendrier, quand une équipe ne peut pas jouer sur tous les tableaux, il faut le revoir. Nous ne serons pas victimes de ce problème. Nous avons affronté Arsenal pour gagner, nous l'avons fait. S'ils ne trouvent pas de date appropriée, nous ne jouerons pas le quart de finale et l'adversaire sera qualifié d'office.
C'est étonnant quand même, Salim, cette déclaration. Il argumente, mais c'est quand même un peu étonnant qu'on en arrive là, à cette situation-là.
Oui. Après, c'est vrai que le calendrier est très surchargé. D'ailleurs, il faut rappeler que sur cette période, il y a déjà un match de Liverpool qui est reporté d'office. C'est le match de championnat West Ham-Liverpool qui était prévu ce week-end-là à la base. Et qui
ça
pour
fait
l'instant...
mal, ça.
Exactement. Et qui pour l'instant n'est pas programmé car on n'arrive pas pour le moment à réussir à programmer cette rencontre entre les deux formations. Et juste pour rappel, parce que ça paraît aberrant d'entendre quelqu'un dire qu'il va déclarer forfait à une compétition, c'est déjà arrivé en Angleterre, et pas n'importe qui. Sir Alex Ferguson, Manchester United, l'a fait saison 99-2000. United sort d'un triplé, Ligue des Champions, Championnat et Cup. L'année d'après, il y a donc la fameuse compétition internationale pour United, en même temps que les 32e de finale de Cup. La Cup, je rappelle que c'est le plus vieux trophée au monde.
Oui, c'est très prestigieux. Hein, très
et bien
convoité.
Ferguson et Manchester United déclarent forfait pour la Cup et ils préfèrent laisser la Cup de côté pour jouer sa compétition internationale. Ça avait été très mal vécu quand même que le tenant du titre lâche la Cup. Donc, ça arrive et ça peut exister pour la Coupe de la Ligue.
Mais allez, je vois pas l'intérêt pour Liverpool, ils ont qu'à envoyer une équipe B.
Ils peuvent.
Bah oui, bah où est le souci?
On l'a dit, la profondeur de bon.
Oui, mais même s'ils sont pas à le même niveau, il y a quand même 22 joueurs à Liverpool. Vous faites pas de soucis, hein, même une quarantaine.
En tout cas, on suivra l'évolution de cette affaire. Le message de Jürgen Klopp est passé. On va, à l'occasion des 5 dernières minutes de cette émission, faire un passage par la botte, l'Italie. Prenons des nouvelles d'une vieille connaissance du football français, du football italien aussi. Thiago Motta, il a troqué, on le sait, ses habits de joueur brillant, mais parfois vicieux, pour ceux d'entraîneur. Entraîneur des moins de 19 ans du Paris Saint-Germain la saison passée. Il a terminé sa carrière au sein du club parisien. Il est entraîneur désormais du Genoa en Serie A depuis peu. 2 matchs dirigés et des débuts franchement intéressants. Un succès 3-1 à la maison contre Brescia le week-end dernier. 3 buts inscrits par trois joueurs entrés en, cours de jeu. Ça, c'est assez exceptionnel. Et hier, le Genoa a longtemps résisté à la Juventus Turin, excusez du peu, en infériorité numérique en seconde période avec deux joueurs expulsés. Il a fallu un pénalty de Ronaldo en toute fin de partie pour que la vieille dame s'impose. Votre réaction à ces débuts très intéressants de Thiago Motta, Salim Bangali?
Oui, et en plus, on parle de défaite, mais le pénalty, malgré l'assistance vidéo, est un pénalty très généreux, on va le dire ainsi, hein, obtenu par les Turinois, le fameux arbitrage.
Pour pas dire plus. Hein.
Voilà, pour pas dire autre chose, arbitrage à domicile. Mais c'est vrai que le Genoa, ben, surprend, on le rappelle, hein, avant son arrivée, c'est une équipe qui ne cessait pas de perdre, au final, qui plongeait au classement. Vous savez, Thiago Motta, il a impulsé quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est très surprenant parce que il passe des moins 19 du PSG à une équipe 1. Alors, ok, c'est son pays d'origine, entre guillemets, en tout cas, celui qu'il connaît plus.
Celui dont il a porté les couleurs.
Mais c'est très étonnant de passer à une équipe 1 et de réussir à instaurer une telle manière de jouer, parce que le Genoa, notamment, j'ai bien observé le 3-1 lors de la victoire 3-1, c'est vrai que ce jour-là, ben, on a vu un Genoa qui était beau à voir jouer. Comme quoi, Thiago Motta, oui, il peut instiller aussi du beau jeu, et c'est plutôt le cas avec le Genoa.
Mais il a toujours une idée sur le football. Moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Mmh. Déjà, avec les 19 du PSG, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait pas pris les dernières catégories d'âge, il avait pris les plus jeunes. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris des taux avec le PSG, parce que lui, c'était pas important pour lui de prendre les meilleurs, c'était prendre les plus jeunes, ceux qui pourraient performer dans les 2-3 ans
à
venir.
Comme a dit Laouchiche, par exemple, qu'on a vu apparaître avec l'équipe première, c'est lui qui l'a valorisé, c'est lui qui l'a replacé en numéro 6.
Voilà, donc très intéressant. Et puis alors, je me souviens d'une interview de lui, et ça m'intéresse toujours de voir un peu comment les entraîneurs raisonnent, et il avait dit, moi je pense que la prochaine étape du football, c'est pourquoi pas un jour intégrer le gardien de but au milieu de terrain. Alors je trouve que c'était un peu évidemment excessif, mais je me suis dit, tiens, il a vraiment une vision sur le football, comme Guardiola était le premier à se dire on peut intégrer le gardien de but comme footballeur de champ. Hein, c'était le premier footballeur de l'équipe de Guardiola, c'est le gardien de but. Ouais. Ce qui à une époque était complètement fou. Tout le monde disait mais qu'est-ce que c'est que ça, le gardien, il a pour arrêter des balles, qu'il la passe à ses joueurs. Alors que ça, lui, il a voulu modifier un petit peu l'ADN de toutes ses équipes. Et là, c'était pareil pour Thiago Motta. Je me suis dit tiens, il a une vraie vision du football. C'est pour ça que là, je suis vraiment avec attention ce qu'il va donner.
Puis il est courageux surtout parce qu'il met les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas.
Alors il connaissait le Genoa pour y avoir évolué en tant que joueur. Ouais, il y a 10 ans.
Il arrive dans une équipe qui est malade, qui est mal classée. Donc ça veut dire que je veux dire, c'est plus sur des ressorts mentaux entre guillemets que tout de suite sur l'installation d'un système de jeu.
Il n'arrive pas à la Juve ou autre.
Avec des idées à mettre en place, des sorties de balles. Là, c'est d'abord redonner confiance à ces joueurs. Il y a notamment l'Ivoirien là qui est vraiment très intéressant.
Kwame, qui a marqué lors des deux matchs dirigés par Thiago Motta.
Lui, c'est vraiment un bon joueur. À mon avis, faut le suivre.
Encore une fois, ressort mentaux à la base, c'est ce qu'on se dit. Mais malgré tout, il y a du jeu. C'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'évoquait Hervé, il y a des idées, en tout cas dans ce qu'il a pu évoquer par le passé, ben, on commence à le voir. Alors hier face à la Juve, vous allez me dire c'était plus compliqué, la Juve avait forcément la balle, mais lors du premier match, ben, sur le 3-1, on voit une équipe du Genoa qui avait envie, donc ça c'est intéressant.
Alors il faudra, là ils ont quand même laissé pas mal de plumes dans cette histoire avec des joueurs expulsés, un pénalty sur la fin.
Ça aussi c'est la patte Motta,
de prendre des cartons. C'est le XR, non c'est le côté Halloween, c'est non, le côté Halloween.
Voilà, c'est aussi une déception de perdre comme ça, sur le fil, donc il va falloir garder ces hommes impliqués et concernés. Quoi.
Le cliché c'est que les grands joueurs sont parfois frustrés quand ils doivent faire passer un message à des joueurs, une fois qu'ils deviennent entraîneurs, parce que bah, tout le monde n'a pas le même talent
mais
qu'eux.
Oui, c'est un grand joueur, mais un grand joueur à un poste très différent. C'est pas un grand joueur attaquant, c'est plus un grand joueur à la Guardiola, si vous voulez. Avec un petit peu reculé, avec une capacité à voir le jeu, à lire le jeu, à être positionné un peu plus bas. Et donc, c'est pas la même vision du jeu qu'un Michel Platini, évidemment, qu'un Maradona, que toutes ces stars, même si on a connu Cruyff. Mais les grands joueurs attaquants, c'est vraiment plus de mal à être de grands entraîneurs.
Après, il faut rappeler pour nos auditeurs que son rêve, il aimerait un jour diriger le Paris Saint-Germain. Donc, c'est quelqu'un qui se prépare aussi, peut-être, on verra les résultats, à devenir un entraîneur de grands clubs. Et ça pourrait être le PSG.
Bon, les encouragements du conseil de classe de Radio Foot, a priori, personne ne s'y oppose.
Oui, c'est bien.
Pour Thiago Motta,
on lui offrira des bonbons.
À la tête du Genoa, 17e de Serie A, le championnat d'Italie. Merci Nabil Djellit, merci Salim Bangali, merci Hervé Penaud, merci Christophe Jousset, merci Pierre-Olivier Guérin, merci Laurent Salerno. Radio Foot revient demain avec Rémi et le Café des Sports. Bien sûr, on embrasse David Schinzel et Annie Gasnier. Ciao, à demain.